RCF.
Dans une certaine mesure, la vie de Charles de Foucault a quelque chose de romanesque. Issu de l'aristocratie, il embrasse une carrière militaire dans laquelle il s'ennuie, fait la fête, développe une véritable passion pour l'Afrique du Nord, puis vit une conversion radicale et il lâche tout pour aller vivre au désert. Un parcours romanesque, donc, qui depuis des années, ceci dit, inspire des hommes et des femmes en quête d'absolu, d'essentiel, de fraternité et d'abandon total à Dieu. C'est à ce personnage hors norme à bien des égards que nous allons consacrer ces entretiens. Christophe Maury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de théâtre, romancier, conférencier et vous êtes auteur. Vous publiez donc une biographie consacrée à Charles de Foucault, Pèlerin de l'Éternel. C'est le sous-titre de ce livre qui est paru chez Pygmalion. Vous avez, à titre personnel, un attachement particulier à Charles de Foucault. J'imagine qu'on ne se lance pas dans ce genre de travail totalement par hasard.
Il fait partie de l'imaginaire lorsqu'on a eu une enfance, une adolescence chez les scouts. La vie de Foucault a été publiée en bande dessinée dès 1959 chez Spirou. Et vous vous souvenez de ces bandes dessinées de vie de saint? Il y avait celle, elle était en bleu et blanc, vous vous souvenez, c'était un certain Courtois, je crois, qui faisait ça. Et la vie de Charles de Foucault, je la trouvais épatante. Et je la lisais et je la relisais. Et lorsque on m'a proposé de travailler plus sérieusement sur le sujet dans le cadre d'une biographie, tout de suite, j'ai dit oui.
Et vous avez découvert des choses étonnantes ou pas?
Totalement.
Inattendues?
Totalement. On connaît l'histoire de Charles de Foucault, on le connaît magnifiquement avec des biographies formidables. Et si on remettait tout en cause?
Alors c'est ce que vous faites, parce que dès le début du livre, dans le prologue, ouais, vous soulignez un certain nombre de contradictions évidentes. Vous soulignez le fait que, je vous cite, une approche psychologique risquerait de vouloir définir cette vie de Charles de Foucault, de l'enfermer dans ses si nombreux méandres et de dresser finalement le portrait d'un être assez pauvre, instable, autoritaire, décevant, extrêmement décevant, qui veut évangéliser des peuples pour lesquels il a parfois des paroles méprisantes. Donc, ça n'est pas une espèce de personnage aseptisé, lisse et sans aucun relief, Charles de Foucault.
Marguerite Castillon-Duperron, dans sa biographie, pose la question, est-ce un misérable illuminé qui s'était consacré au service d'indigènes arriérés? Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il n'était pas bipolaire? Je n'en sais rien. Il y a une instabilité extraordinaire. Or, cette canonisation qui a été très lente parce qu'il est mort en 1916. Et dès 1916, tout le monde, toute sa famille notamment, veut qu'il soit immédiatement canonisé parce que martyr. Mais il n'était pas martyr. Et on va mettre un temps fou. Alors,
à comprendre les circonstances de sa mort.
À comprendre ce qui s'était passé. Alors, on va y revenir. Mais dans cette introduction, ça a été le saint des ermites. Ça a été le saint des militaires. Ça a été le saint des coloniaux. Ça a été le saint des espions. Pourquoi pas il a été espion? Pourquoi pas? Posons-nous la question. Ça a été le saint de la grande conversion. Tiens, ça se fait à Saint-Augustin, ça tombe bien. Ça aurait pu être à Saint-Paul aussi. Bon, on va avoir, comme pour Saint-Paul, deux récits de sa conversion. Il faut les mettre l'un en face de l'autre. Charles de Foucault nous interroge. On a plein de facettes différentes. Et ces facettes, si on arrive à trouver l'unité de cet homme, on va tomber sur l'amour du Christ. Et ça, c'est prodigieux.
Alors, pour essayer d'explorer chacune de ces facettes qui constituent cette personnalité quand même hors norme, commençons par évoquer sa jeunesse. Et rappelons qu'il est né en 1858 à Strasbourg. Il a une sœur. C'est un milieu bourgeois?
C'est un milieu aristo. On est dans un hôtel particulier, 3 rue Place Broglie, puisqu'on dit Broglie là-bas à Strasbourg, qui est connu puisque c'est là où Rouget de Lisle avait composé la Marseillaise. Alors on n'allait pas le chercher sur la Place Broglie, mais aujourd'hui c'est une succursale de la Caisse d'Épargne.
Bon. La maison a été détruite.
On est en 1858. En 1858, pour nos auditeurs, Baudelaire publie Les Fleurs du Mal. Hugo souffre d'un furoncle à la fesse et se demande si les contemplations étaient à Guernesey, si les contemplations ne devraient pas avoir un deuxième recueil qui leur a appelé Les Souffles. La comtesse de Ségur publie Les petites filles modèles, Ferdinand de Lesseps crée la compagnie du canal de Suez, Théophile Gautier écrit le roman de la momie. Le régime est très préoccupé par l'Italie, Napoléon III et l'impératrice Eugénie échappent de peu à un attentat à la bombe qui tue quand même 8 personnes et blesse 150 autres. En Algérie, la population européenne ne cesse de croître. Elle compte 193 000 habitants et l'empereur, qui considère le ministre comme des rouages, crée le ministère de l'Algérie et des colonies qu'il confie à son cousin, le prince Napoléon. Alors vous voyez, c'est aussi l'année de la naissance de Puccini et à Liège du violoniste Eugène Ysaÿe. Alors vous voyez, on est à la fin du romantisme. L'orientalisme touche beaucoup, on a envie d'aventure, on a soif de géographie, on a soif de grands espaces.
C'est dans ce contexte-là qu'il naît, qu'il grandit, et c'est dans cette famille donc aristocrate.
Son père est aux eaux et forêts, il est vite muté à Wissembourg, donc ils vont vivre à Wissembourg. Et puis malheureusement, très vite, les parents meurent.
Drame. Il se retrouve orphelin à l'âge de 7 ans.
Elle de névralgie, et lui de ramollissement du cerveau. Et donc, il se retrouve orphelin à 6 ans et Marie, sa sœur, 3 ans. Et on les confie au général de Morlaix.
Le général de Morlaix, qui est donc le grand-père maternel du petit Charles et de sa sœur Marie, qui se voit donc confier l'éducation de ses deux jeunes enfants.
Il a 70 ans au moment où il va prendre en charge ses deux petits-enfants. Il est veuf et il s'est remarié avec Amélie de la Touche, qui va s'occuper aussi des deux petits-enfants.
Et cet homme va énormément compter pour Charles de Foucault.
Mais énormément. Il a deux points fondamentaux, une bibliothèque et une cave. Et Charles va profiter des deux. Il va apprendre les bons vins et il va apprendre les grands livres. Et il va très vite être un grand lecteur.
Dans ce genre de famille, on est promis à divers types de carrières. Enfin, il n'y en a pas 36, hein, mais lui, c'est l'armée.
Ah ben, quand on a comme grand-père un général, on ne peut pas... ou un colonel,
on a du mal à y échapper.
Donc... il part pour Paris, où il va aller sur la colline Sainte-Geneviève, à Ginette, comme on dit, chez les jésuites, pour préparer les concours et pour préparer Saint-Cyr. Il se fait virer de Ginette pour indiscipline, il prépare Saint-Cyr en auditeur libre et il rentre à Saint-Cyr.
Où il n'est pas très heureux. La douceur de l'enfance lui manque. Il a une certaine nostalgie de son enfance, dont il dit finalement qu'elle a été heureuse. Malgré la perte de ses parents.
L'enfance a été très heureuse. Et quand il apprend la mort de Charles de Morlaix, son grand-père, il est totalement effondré. Et il s'en souviendra naturellement toute sa vie. Alors, il faut savoir qui il est lorsqu'il est à Saint-Cyr. D'abord, il est obèse. Il parle certainement avec un accent. Certainement.
Quel type d'accent, d'après vous ?
Alsacien. Il est extrêmement... complexé socialement.
Pour quelle raison ?
Il a de l'argent. Beaucoup d'argent, pense-t-il. Pas tant que ça, mais beaucoup d'argent, pense-t-il. Et il a du mal à s'intégrer au groupe. Parce qu'il cherche toujours à le dominer. Il est souvent autoritaire. Et encore une fois, il est flasque, obèse, nul en sport. Ce qui est difficile chez les militaires.
Donc, ce n'est pas un lieu d'épanouissement pour lui. Il a un ami très fidèle. Il le restera jusqu'à la fin de ses jours. Un ami d'enfance à qui il écrit très régulièrement. On a ce courrier que vous proposez dans votre ouvrage.
C'est une amitié formidable, une amitié d'adolescence, une amitié d'enfant. C'est Gabriel Tourde qui est né un an avant lui à Strasbourg et qui sera juge d'instruction et qui est vraiment un juriste. Et les deux adolescents ont lu beaucoup et s'échangeaient des livres et parlaient des heures et des heures sur des livres. Et ils rêvaient de gloire chacun.
Est-ce qu'on peut dire que Charles de Foucault, lorsqu'il s'engage dans cette carrière militaire, le fait sans aucune conviction ou quand même il a envie de servir la France, c'est un patriote.
Il a un grand sens de la patrie. un grand sens de la patrie, un grand sens de la France, et attention, un grand sens de la revanche, parce que on nous a piqué l'Alsace.
Il a quitté
Strasbourg avec son grand-père Charles de Morlaix pour vivre à Nancy. Et que l'Alsace est le paradis perdu. Wissembourg est allemand. Strasbourg est allemand. Il faudra bien leur reprendre ça un de ces jours. Donc oui, il y a un côté revanchard, il y a un côté patriote très fort, amour du pays, de la France, et certainement le sens et le goût du sacrifice, déjà.
Il est cavalier et il se trouve qu'il est envoyé donc pour la première fois en Afrique du Nord,
oui.
En Algérie.
Oui.
Quelle impression ce pays fait-il sur lui ?
C'est une gifle de lumière. Il va être sidéré par la lumière et ensuite par les hommes.
Une sorte de coup de foudre.
Ah oui, mais tout de suite. Happé complètement par une puissance d'énergie qui donne envie de sortir de soi. Et puis, il est fasciné par les hommes. Et pour la première fois, il se frotte avec l'islam. Et il se dit, c'est quand même extraordinaire, tous ces gens qui arrivent à prier 5 fois par jour.
On vous retrouve demain, Christophe Maury, pour continuer d'évoquer la vie de Charles de Foucault.